France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Nous sommes dimanche, il est 8h30 et c'est Solae, le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière dans le cadre de ces émissions estivales. Je reçois ce matin une artiste, une virtuose même, Anne-Lise Gastaldi, pianiste, professeure de piano, lauréate de plusieurs concours internationaux, membre du trio Georges Sand avec la violoniste Virginie Buscaille et la violoncelliste Diana Ligeti. Elle est aussi passionnée de Marcel Proust, autour de qui elle a beaucoup travaillé. Mais ce matin, nous irons avec Anne-Lise dans d'autres directions, celles notamment de la spiritualité, de la foi protestante. Nous parlerons beaucoup de Mozart, aussi de Barthes, de Kierkegaard, de Malheur et d'amour. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Jean-Luc.
Cette courte présentation avec le piano, l'enseignement, la littérature, la foi également, on aurait pu ajouter sans doute les voyages, les rencontres, tout cela vous convient ?
Absolument. Je crois que c'est une description qui est assez juste de ma pratique et de qui je suis.
Anne-Lise, nous allons tout de suite ouvrir la Bible avec vous, comme nous le faisons le plus souvent dans Solae avec le rendez-vous avec la parole. C'est un commencement de texte très connu que vous avez choisi, des paroles ô combien magnifiques de l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 13, le premier verset qui nous est lu par le comédien Thierry Cazazian.
J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
On connaît bien ce texte, « Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour ». Alors vous affectionnez tout particulièrement ce texte, Anne-Lise Gastaldi. De quelle manière vous parle-t-il, vous rejoint-il dans votre vie personnelle, mais aussi artistique ?
Alors il me rejoint dans ma pratique effectivement artistique, en tant que pianiste et en tant qu'enseignante. C'est-à-dire, si je fais de la musique, je joue du piano et je n'ai pas cet ingrédient incontournable qui est l'amour et l'intention, que j'associe à l'intention musicale, ou si j'enseigne, je donne des propos à mes élèves tout à fait justes, mais que je n'ai pas cette bienveillance et cette forme de charité, cet amour aussi, bah, évidemment, mon métier n'a pas du tout le même sens, voire il n'a pas de sens. Mes propos et mon jeu pianistique, on voit beaucoup de virtuoses et de merveilleux musiciens qui jouent divinement, mais à qui manque cette intention musicale. C'est ce qui doit habiter l'artiste.
Alors moi, j'aime beaucoup la notion d'émotion que j'aime évoquer dans tout premier rapport, toute première rencontre. Et c'est peut-être ça aussi qui est oublié, qui est mis de côté finalement quand cette bienveillance, quand cet amour n'est pas présent, l'émotion finalement en pâtit certainement.
Ah, l'émotion en pâtit forcément. On a affaire à quelque chose qui est plaqué, c'est-à-dire qui est juste dans le contenu, mais qui n'est pas juste dans la manière de le donner et de le transmettre. Donc qui perd de sa vie et qui perd de son essence et de son sens, profondément qui perd de son sens. L'émotion, c'est vital. Si nous ne sommes pas bouleversés dans cette vie n'est pas cette vie, il n'y a pas de sens. C'est ce qu'on constate en musique.
Vous avez une magnifique croix huguenote autour du cou, vous êtes protestante, vous aussi, personnellement, et c'est quelque chose de ce que j'ai compris qui est important pour vous, pas simplement culturellement, mais c'est quelque chose qui imprègne votre façon d'être d'une certaine manière.
Oui, absolument. C'est un peu de l'ADN, l'ADN protestant, c'est-à-dire j'ai un rapport au texte, un respect, un premier abord aux textes musicaux, par exemple, qui est vraiment extrêmement
rigoureux
et qui le doute tout de suite et comprendre et agir en fonction de ça. Tout ce que je mets là au début me permet par la suite, au contraire, d'être plus libre dans ce rapport à la musique et dans ce rapport aux textes musicaux. C'est pareil, on peut le transposer dans l'enseignement et dans toutes les pratiques qui irriguent la pratique du piano. Tout ce qui est autour.
Ce qu'on a dit par rapport à la bienveillance, la charité, l'amour, pour vous, c'est profondément aussi la quête artistique du musicien qui est là, au cœur de ce besoin.
Ah oui. Cette quête artistique, elle n'est pas une vraie quête artistique si elle n'est pas sous-tendue par ça. S'il n'y a pas ce sentiment et cette démarche-là. Et cette démarche, elle vient aussi de l'espace qu'on met en nous-mêmes, du recueillement. Il y a aussi un recueillement face à notre pratique artistique, un recueillement, une solitude très importante, ouais. Parce que c'est un regard sur nous-mêmes, c'est mieux nous connaître pour mieux agir et mieux transmettre et être plus vrai avec nous-mêmes, être authentique, ce qu'on appelle être authentique, être vraiment donné de soi. Quand on dit donné de soi, c'est ça.
Je disais dans votre présentation que vous étiez une amoureuse de Proust.
Oui.
Vous avez beaucoup travaillé un festival notamment.
Oui, les journées musicales Marcel Proust qui me tiennent beaucoup à cœur.
Mais il y a aussi côté musique, cette fois-ci un compositeur qui compte, semble-t-il, beaucoup pour vous, c'est Mozart. Chez qui vous repérez aussi une forme de spiritualité.
Ah oui, la musique de Mozart est une musique qui touche au plus près la spiritualité. Peut-être, alors là je vais en faire bondir plusieurs, peut-être encore davantage que celle de Bach.
Notamment chez les protestants, il y a beaucoup d'amoureux de Bach.
Ah oui, on le sait. Je suis amoureuse de Bach.
Oui, moi aussi, j'apprécie énormément.
Évidemment, je ne peux pas vivre sans Bach non plus, mais Mozart mène peut-être encore plus loin par ce côté de musique pure, parce que la musique de Mozart est sans doute dénuée de ce message-là. Il ne veut pas de ce message-là. C'est musique pure, c'est l'essence de quelque chose.
Pour faire rejoindre Mozart au protestantisme, un théologien s'impose, c'est Karl Barth.
Ah oui.
Il a écrit sur Mozart de très belles manières, me disiez-vous.
Ah, il a écrit des choses merveilleuses, en même temps pleines de spontanéité, quelquefois pour des musiciens professionnels, peut-être un peu maladroite, si j'ose le terme, mais tellement authentique. Si vous voulez bien, je voudrais
Allez-y.
Juste vous lire quelques phrases de Karl Barth dans ce
Au contraire, ça va nous permettre
de
bien comprendre de quoi il s'agit.
Voilà. Ce sont des petits essais qu'il a écrits. On lui a demandé d'écrire en 1956. Donc, c'était le 200e anniversaire de la naissance de Mozart. On lui a demandé d'écrire des petits témoignages. Alors, par exemple, Karl Barth dit: je dois avouer que, si jamais je devais aller au ciel, je m'informerais d'abord de Mozart, et après seulement de saint Augustin, saint Thomas, Luther, Calvin. Ça en dit long.
C'est dit.
Et un peu plus loin, il se sent presque parfois un peu culpabilisé, je dirais, de cet amour mozartien. Ouais. Il dit: comment en suis-je arrivé, moi le protestant et le théologien, à témoigner à l'égard de Mozart d'un attachement qui ne vous aura certainement pas échappé? N'était-il pas catholique et par-dessus le marché franc-maçon? N'était-il pas avant tout un pur musicien? Celui qui a des oreilles pour entendre aura déjà compris. Voilà.
Une belle façon d'évoquer tout cela. Mozart, c'est un compositeur qui a impacté des tas d'artistes ou d'écrivains.
Oui, oui.
Pas simplement Karl Barth.
Non.
Vous pouvez nous évoquer Mozart par d'autres biais, peut-être?
Ah oui. Alors, bon, Goethe disait de Mozart qu'il était inaccessible. Donc, ça mériterait de réfléchir qu'est-ce qu'entend Goethe par ce terme d'inaccessible. Et le comparer, ça c'est Barth qui raconte cela, et il le comparait à Raphaël et à Shakespeare quand même.
Oui.
Et je trouve que c'est très juste. Ce choix précis est tout à fait judicieux. Ensuite, Hermann Hesse, pour qui j'ai une immense admiration, dont je me suis nourrie de lecture à diverses périodes de ma vie. Hermann Hesse a écrit des propos magnifiques sur la musique, qui sont recueillis dans un très beau livre, des lettres, des poèmes. Il a écrit des poèmes sur la musique. Et avec Mozart, il parle de fusion de l'éternité avec l'instant. Et je trouve que c'est extrêmement juste, cette fusion de l'éternité avec l'instant. Et il a écrit des poèmes sur Mozart. Goethe, Hermann Hesse, Rilke également. Rilke, plus spécifiquement, je dirais, Il parle de la solitude dont les œuvres d'art ont besoin. Et c'est moi qui fais le chemin jusqu'à Mozart. Donc ça, je me mets en travers de Rilke, que j'aime particulièrement. Et puis des tas d'autres artistes, des peintres, des compositeurs, Gustav Mahler, bien sûr.
Oui, alors justement, oui. Je vous arrête puisque nous allons écouter du Mahler maintenant. Vous travaillez actuellement beaucoup autour de Mozart, on en reparlera avec notamment un album avec le trio George Sand. Mais je vous propose que nous écoutions quelques mesures d'une œuvre que je trouve personnellement absolument magnifique, que vous interprétez. C'est l'Adagietto Symphonie numéro 5. Tiré d'un album précédent, Malheur intime, avec le trio George Sand. Oui. Peut-être quelques mots de présentation juste avant de l'écouter.
Oui, c'est une transcription donc, parce qu'en tant que pianiste, on est triste de ne pas pouvoir jouer la musique de Malheur. Il y a très peu de choses, il y a le quatuor avec piano, il y a évidemment avec chant, mais il y a très peu de choses. Et cette transcription est absolument magnifique pour piano et violon. Et je trouve que elle rejoint Mozart dans ce que nous avons évoqué précédemment sur la solitude, l'intériorité, la souffrance et le sentiment d'éternité que dégage cet adagietto et qui nous fait profondément du bien.
Eh bien, on en écoute un extrait tout de suite. Ce ne sont que quelques notes, mais quelles notes ?
Oui.
Il en faut parfois peu d'ailleurs.
Absolument.
Silence intérieur, une forme de recueillement spirituel, quelque chose qui s'offre à nous avec une musique comme celle-là, Annelise Gastaldi, comme d'autres aussi de Mozart.
Oui, exactement. C'est, tout d'un coup, c'est cette possibilité que nous donne le compositeur et aussi par l'intermédiaire des interprètes, s'ils nourrissent de leur amour, comme nous l'avions dit avant, d'accéder à quelque chose qui nous dépasse, une sorte de mystère et d'énigme, mais une énigme dont on n'est pas angoissé de ne pas avoir la solution.
Oui, au contraire, presque.
Au contraire.
Si c'est nous avions la solution, peut-être que...
Exactement.
Il n'y aurait plus cette magie-là.
Il n'y aurait plus cette magie.
On évoquait Barthes tout à l'heure. Un autre théologien protestant, danois cette fois-ci, a écrit sur Mozart, c'est Søren Kierkegaard. Il dit par exemple « Mon âme, saisie par la musique de Mozart, s'est inclinée devant elle avec admiration et humilité ». Je trouve ça très très beau. Je sais que ces écrits vous interpellent également.
Ah oui. Kierkegaard a écrit de magnifiques pages sur Mozart, dans Les Roses et la musique notamment, et particulièrement sur Don Juan. Il a été interpellé par le Don Juan de Mozart, mais à un point qu'on a peine à imaginer. Et en ça, il s'oppose à Barthes. Et d'ailleurs, Barthes, dans son ouvrage, dit... pour moi, je ne suis pas d'accord avec Kierkegaard.
Ils se répondent.
L'intention de Mozart n'est pas Don Juan et de nous faire passer une idée. C'est en ça que Barthes, comme je le disais tout à l'heure, on est dans la musique pure. Mais Kierkegaard, lui, va très loin. Alors, je vous lis juste une petite phrase parce que je trouve ça aussi assez extraordinaire, avec la même ferveur que celle qu'on a entendue tout à l'heure avec Barthes. Je suis épris de Mozart comme une jeune fille et il me faut à tout prix lui donner la précédence. Et j'irai trouver le bedeau, le pasteur, le doyen, l'évêque et le consistoire. Je les prierai, je les conjurerai d'exaucer ma prière. J'adresserai la même requête à toute la communauté. Et si l'on refuse d'écouter ma prière, d'exaucer mon désir enfantin, je me retire alors de la communauté. J'abjure sa doctrine et je fonde une secte qui, non contente de placer Mozart au pinacle, n'admet encore personne d'autre que lui.
C'est beaucoup d'humour aussi.
Beaucoup d'humour aussi. Et quelque chose, un don de soi total pour Mozart.
Mais c'est intéressant d'entendre ces grands théologiens justement parler aussi d'autre chose que...
Oui.
Que de textes religieux, de s'intéresser à la culture. Moi, je suis épris de ce lien entre culture et église, entre culture et foi. Et là, on l'entend avec avec ses écrits.
Absolument. Ils sont bien présents et ils nous donnent, en tout cas, ils nous donnent envie, ils nous ouvrent une porte, on a envie de la franchir, on a envie d'aller écouter immédiatement Mozart. Oui.
Alors Anne-Lise, avec nous dans notre studio ce matin, il y a aussi notre chroniqueuse Laurie Chamard qui voulait apporter un peu de sa réflexion, de son regard personnel à notre discussion. Bonjour Laurie.
Bonjour Jean-Luc.
Alors la musique dite classique, alors je dis dite classique parce que toutes ces appellations sont parfois trop enfermantes d'une certaine façon, mais en tout cas avec elle et avec Mozart, qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes si jeune?
Merci Jean-Luc, et c'est toujours super de pouvoir passer après Kierkegaard et Barthes.
Oui, c'est
aujourd'hui,
ça le fait.
Laurie Chamard. Alors aujourd'hui, on parle de musique, et moi j'aimerais vous parler des Boiler Rooms.
Ah oui.
Vos têtes circonspectes, vous connaissez pas les Boiler Rooms? Ah non.
Non,
je suis en train de devenir cette personne insupportable qui dit « Quoi ? Tu connais pas ?» Une question innocente, mais qui a l'air de nous dire « Mais comment j'ai pu être amie avec une telle inculte sans m'en rendre compte toutes ces années ?»
Eh bien merci Laurie, alors c'est très sympa pour Anne-Lise et moi en effet.
Vous inquiétez pas, je me mets dans le même panier, parce que je pense que ça nous est déjà arrivé à tous, qu'on nous parle de quelque chose et que nous ne connaissions pas cette chose-là. Un de mes collègues, il y a quelques années, m'a parlé de la série Kaamelott, dont il était fan, et il m'a sorti une citation, et en ne me voyant pas réagir, il m'a regardé, il m'a dit « C'est dans Kaamelott ». Et moi, je lui ai répondu « Ah oui, désolé, non, j'étais pas branchée ». Mais comme il voulait absolument construire un moment de complicité avec moi, il a enchaîné avec à peu près 12 références. Et c'était trop tard pour que je lui dise « Écoute Rémi, j'ai vu 3 épisodes quand j'avais 10 ans, j'ai rien compris, j'ai jamais rien regardé depuis, je ne sais pas de quoi tu me parles depuis 30 minutes. »
Alors Laurie, je vous arrête, comble de l'anecdote que vous nous racontez là. Sachez que vous avez une semaine pour vous rattraper, parce que dimanche précisément, je reçois Lionel Astier dans Solae. Et Lionel se trouve être justement l'interprète de Léo Dagan de Carmélide dans Kaamelott, et en plus le père d'Alexandre Astier, le réalisateur de Kaamelott. Voilà, ça c'est dit, et puis on donne rendez-vous à nos auditeurs donc dimanche pour ce moment particulier.
Et sans pression, je vais appeler mon collègue Rémi, il me fera un résumé
un petit
détaillé.
Résumé.
La musique classique n'est pas épargnée par ce côté réservé aux initiés. Il suffit d'applaudir au mauvais moment lors d'un concert et on aura l'équivalent d'un « Quoi ? Tu connais pas la musique classique ?» mais en version juste « Regarde tous les gens autour de nous qui nous feront comprendre que là, on n'est pas dans les codes. » Après, on peut se rassurer en disant que les maîtres de la musique classique, les génies eux-mêmes, sont déjà sentis en décalage et pas dans les codes. Et ça nous fait déjà un point commun avec Mozart, et c'est toujours ça de prix, vu qu'on ne peut pas tous compter sur le fait d'avoir l'oreille absolue et une super mémoire pour nous en trouver un point commun avec Mozart. Alors Mozart, il s'est beaucoup senti en décalage avec son public, et son problème, c'est qu'il pensait qu'il était supérieur aux gens qui l'écoutaient, plus cultivé et infiniment plus talentueux, et les gens qui l'écoutaient, eux, pensaient qu'il fallait que Mozart redescende un peu, parce qu'il avait du talent, certes, mais ça n'était qu'un employé quand même. C'est le sociologue Norbert Elias qui dit ça dans Sociologie d'un génie, qui dit « Mozart a vécu l'ambivalence fondamentale de l'artiste bourgeois dans la société de cour, qui peut se ramener à la formule suivante, identification avec la noblesse de cour et son goût, amertume d'être humilié par elle ».
Alors vous avez réussi à faire le lien avec Mozart dans votre chronique, mais les Boiler Rooms au
fait. Ah oui, les Boiler Rooms, je vous ai toujours pas dit ce que c'était les Boiler Rooms. Ce sont les plus grandes soirées de la planète. C'est des DJ sets de musique électro qui sont filmés et diffusés en direct sur internet et qui sont suivis par des milliards de personnes. Et surtout, c'est l'endroit où il faut être vu. Avant, l'endroit où il fallait être, c'était des opéras, des théâtres. Maintenant, ce sont des sets de DJ ou alors des gros concerts comme ceux de Dua Lipa ou de Billie Eilish à Bercy récemment. Alors, la musique classique, elle a un peu perdu de cette aura. Et on assiste même à une inversion des valeurs depuis quelques années déjà. D'un art considéré comme niche et réservé à certains initiés, il est maintenant représenté par des artistes qui ont une vraie volonté de le démocratiser. On peut citer par exemple la pianiste virtuose Katia Bounietichvili, qui entre deux albums a fait une collab avec le groupe pop Coldplay, un projet accessible à tous, peut-être pour créer un pont et ramener des gens vers la musique classique.
Alors une démocratisation de la musique, une façon donc de faire lien plus largement avec un auditoire à conquérir. On va demander l'avis à Annie juste après sur ces choses-là. Mais continuez Laurie.
Dans ce contexte de démocratisation, comment rester fidèle à son art et ne pas faire de compromis sur ce qu'on propose aux auditeurs ? Parce que c'est un principe très humain de vouloir être apprécié de tous, être écouté par le plus de gens possible. Mais est-ce qu'on dilue pas un peu le style et le message ? Est-ce que être radical n'entraîne pas nécessairement une horde d'opposants ? Mozart, il n'a rien concédé. Il est resté radical dans sa musique, et surtout dans sa personnalité de bourgeois en conflit avec l'aristocratie. Il est mort à 35 ans. Mais aujourd'hui, il est devenu une expression pour parler d'un génie. La limite est fine entre démocratiser un art pour que tout le monde puisse y avoir accès et perdre ce qui fait l'essence de notre art pour gagner de l'appréciation. Mais ce qui est sûr, c'est que de ramener des gens sur notre terrain en faisant des ponts avec ce qu'ils connaissent, ça marche beaucoup mieux que de dire « Quoi ? Tu connais pas ?»
Merci Laurie. On connaît donc tous maintenant ce que sont les Boiler Rooms, c'est déjà ça. Annie, vous avez peut-être envie de réagir, peut-être notamment sur cette question de la démocratisation, pour reprendre ce verbe utilisé par Laurie.
Oui, c'est une question assez fondamentale, vraiment que Laurie
évoque avec humour.
Bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elias, mais ça, c'est
sur
personnel.
Sur la bourgeoisie de Mozart.
Sur Mozart, mais ce n'est pas le sujet. Et je pense que démocratisation de la musique, c'est le mot de démocratisation, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce que ça, rendre la musique, j'entends quelquefois, rendre la musique accessible, ça veut dire quoi ? La dénaturer, là ? Je pense qu'on sous-estime toujours nos publics, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Et que les publics qui vont pardon, j'ai oublié le nom.
Au Boiler Room.
Ouais, voilà, exactement. il est tout à fait capable d'aimer Mozart et d'avoir le même. Et je l'ai testé, ça. Je l'ai testé en faisant de la médiation pour des REP, pour des écoles, des enfants complètement déshérités sur le plan culturel et qui avaient des remarques hyper judicieuses quand ils entendaient de la musique classique très bien jouée. Jeter un pont entre deux choses, c'est toujours bien, dans la mesure où ce pont n'est pas un pont de brick et de broc, artificiel, et qui n'est pas construit en respect de ce qu'on veut transmettre. Voilà.
Alors vous faites quand même des passerelles, justement, avec notamment d'autres cultures. Et ça n'est pas artificiel. Il y a du sens derrière. Alors, on explique ce projet sur lequel vous avez travaillé avec le trio George Sand, que vous avez donc osé imaginer, un projet un peu fou, en sortant récemment un superbe livre-disque, on en a déjà écouté un extrait dans Solae, d'ailleurs, qui offre une réponse musicale, littéraire, picturale, à une hypothèse, à une forme de déplacement géographique de Mozart. Je vous laisse nous en dire quelques mots et on écoutera un extrait.
Alors, nous avons imaginé, donc avec essentiellement la violoniste du trio, Virginie Buscaille, et avec Diana Ligeti aussi, de faire voyager Mozart au Japon. Parce que je me suis souvent dit, si Mozart avait eu les moyens de transport que nous connaissons aujourd'hui, il serait forcément allé au Japon, un homme d'opéra, un homme, pour connaître le théâtre no, pour connaître le kabuki, et pour s'intéresser à d'autres instruments. Le shamisen, le koto, le shakuhachi, la flûte japonaise. Et finalement, on s'est dit, on va faire embarquer Mozart pour aller au Japon. Nous avons passé commande à Richard Colas, qui avait écrit le dictionnaire amoureux de Mozart au Japon, d'écrire des lettres que Mozart aurait pu écrire du Japon, donc il s'est imprégné du style de Mozart, de tout. Et il a écrit plusieurs lettres de Mozart qui arrive au Japon et qui découvre le Japon du 18e siècle, bien évidemment. Et ce qui est fantastique avec les rêves, c'est un peu de la folie d'imaginer des choses comme ça. Mais en même temps, on se rend compte qu'une partie du rêve devient un peu réalité, parce que quand, à la fin de certains concerts, si on lit certains extraits, il y a quand même du public à la fin qui vient et qui dit « Mais alors, il y allait au Japon ?» Et ça, c'est fabuleux.
Oui, c'est que ça a marché, finalement.
Ça a marché.
Alors, je vous propose d'écouter un bel extrait, la sérénade de Don Juan, justement, nous en parlions, transcrite pour quatuor, violon, violoncelle, alto et koto, qui fait donc partie de ce voyage imaginaire de Mozart au Japon. Thank you. Alors, on peut préciser également que la transcription de ce morceau est signée par...
Jean-Michel Ferrand, oui. C'est tout un art de transcrire, hein. C'est une sorte de traduction, la transcription, c'est très délicat. Et imaginez à la place de la mandoline, le koto, instrument japonais. D'ailleurs, Mozart en parle dans une de ses lettres lorsqu'il est allé au Japon,
hein.
je ne vous le cache pas. Et c'était très ingénieux de sa part, avec ici un solo à l'alto qu'on a entendu par Violaine d'Espérou et qui est repris ensuite par Virginie Buscaille au violon. Donc c'est entendre l'œuvre d'une autre manière et oui. Comme si voilà, il était revenu, il avait fait le voyage en bateau avec un koto, il a ramené un koto du Japon.
Voyage imaginaire de Mozart au Japon, le trio George Sand qu'on peut trouver plus ou moins un peu partout.
Partout, hein. Oui, ouais. Il y a une distribution.
Et là, c'est bien quand même d'avoir l'objet, pas simplement d'aller écouter sur les plateformes musicales, parce que il y a vraiment un bel objet tout autour.
C'est ce que nous avons voulu faire avec le trio et particulièrement Virginie, en créant le label Elstir, c'est-à-dire que c'est un objet avec beaucoup d'images, avec des livrets extrêmement riches.
Oui, tout à fait, je confirme.
Beaucoup d'articles à l'intérieur, c'est presque un livre.
Oui, oui.
Donc c'est pour ça que nous avons voulu créer ce label.
Nous arrivons à la fin de notre entretien. Annelise Gastaldi, peut-être avant de nous quitter, parlez-nous de votre actualité. Je crois qu'il y a un projet pour continuer justement derrière ce voyage au Japon.
Oui, absolument, il y a un projet en gestation. Une chose en provoque une autre et c'est ça qui est magnifique parce qu'on tire un fil de la pelote de laine et puis, apparaît
voilà,
une colombe, un lapin. C'est un tour de passe-passe. Et nous allons prolonger Mozart et le Japon avec un rapprochement entre la musique de Mozart et Sei Shonagon, une écrivaine japonaise du XIe siècle. C'est Floriane Bonani qui va faire la création, la conception de ce spectacle et le trio George Sand qui en jouera la musique et nous espérons une comédienne dont je ne peux pas encore donner le nom parce que son accord va être donné bientôt donc je ne veux pas, je suis
bien sûr
pas superstitieuse, hein, je suis protestante mais tout de même, voilà, je ne donnerai pas son nom donc c'est la prolongation de ce projet.
Et puis des concerts au Japon d'ailleurs aussi.
Beaucoup de concerts au Japon sur ce projet que nous continuons, que nous voyageons avec lui, hein, les artistes voyagent avec leurs projets. Heureusement.
Eh bien, nous allons voyager aussi avec du Mozart pour finir. Nous allons partir gaiement sur du Mozart. Vous êtes au piano avec le trio. Et puis Violaine d'Espérou également. Le final du Quatuor en sol mineur de Mozart. Merci Annelise Gastaldi.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Laurie.
Au revoir Jean-Luc. Au revoir à tous.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Jean-Louis Deloncle à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter sur le site protestant-au-pluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. La semaine prochaine, comme je l'évoquais tout à l'heure, un autre artiste invité au micro de Soleil, le rendez-vous protestant, c'est le comédien, auteur et metteur en scène Lionel Astier. Mais pour le moment, sur France Culture, à 9h, vos informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wacknin. Très bon dimanche à chacune et chacun. Thank you.